franceinter.fr.
Marcel !
Que de bonheur possible dont on sacrifie la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat.
Ma petite Albertine, en ce moment je suis encore trop triste.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Que de bonheur possible dont on sacrifie la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat. C'est un leitmotiv dans l'existence de Charles Swann. La joie semble souvent le contourner, le frôler, sans qu'il puisse jamais l'atteindre. Il y a toujours une inquiétude qui vient tout gâcher, un soupçon, un doute, qui le prive d'un bonheur certain. Car Swann est jaloux, c'est d'ailleurs ce qui pourrait le définir le mieux. Swann est, avant le narrateur, le premier jaloux de la recherche. Et sa jalousie maladive nous est racontée au cœur du premier volume du roman « Dans un amour de Swann ». Le narrateur y fait le récit de son histoire avec Odette, une cocotte qui deviendra sa femme et la mère de sa fille Gilberte. Mais pendant des années, Swann se consumera de chagrin à l'idée que sa bien-aimée est peut-être en train de le tromper. Seule la douce musique de Vinteuil lui apporte un peu de consolation. Alors comment cet ami du narrateur, amoureux jaloux, amateur d'art et artiste manqué, est-il devenu le personnage le plus célèbre de la comédie humaine de Proust? Je pose ce soir la question au professeur et biographe Jean-Yves Tadié.
Cette curiosité un peu maligne qui nous pousse à savoir quels modèles ont servi aux personnages d'un livre décrivant la société où nous vivons, je l'ai éprouvé, je l'avoue, comme je lisais du côté de chez Swann, et j'en ai fait part à Proust la première fois que je le vis. Swann avait paru depuis quelques mois. Comme je disais à Proust que j'avais cru découvrir derrière plusieurs de ses personnages des figures que je connaissais, il protesta que je me trompais, qu'il n'avait approché qu'à de rares occasions ses prétendus modèles, et que la suite de son œuvre me démontrerait combien j'avais tort. Puis, à propos des noms que j'avais cités, il se mit à me raconter, avec ce mélange de complexité et de clarté qui était une des qualités de son esprit, toute une suite d'anecdotes où le fait positif avait pour ainsi dire à peine de surface au milieu du développement psychologique. C'était un ensemble réel et exact en ses mille détails, mais déformé ou plutôt recréé par l'imagination et la recherche de Proust.
Bonsoir Jean-Yves Tadié.
Bonsoir.
Jacques de La Cretelle confiait à l'instant qu'il avait cru déceler derrière certains personnages de Du côté de chez Swann des personnes réelles, mais Proust lui répondait qu'il n'en était rien, ou en tout cas qu'il ne fallait pas y faire aussi attention. Pourquoi tenait-il tant à cela?
Parce que tous ses contemporains cherchaient à savoir qui était qui et s'il y avait des clés dans toutes ces histoires. Proust trouvait que c'était une lecture extraordinairement superficielle, même si lui-même personnellement l'avait pratiquée chez d'autres, et que ça nuisait absolument au goût qu'on aurait pu avoir pour l'art du roman. Donc il nie s'être inspiré de modèles. Cependant, il avoue vers la fin de son roman que pour Charles Swann, il s'inspire d'un personnage réel, Charles Haas.
Alors Charles Haas, qui est-il?
Alors Charles Haas est bien oublié maintenant, mais c'était un juif de la haute bourgeoisie, d'un milieu financier très riche, très cultivé, inspecteur général des Beaux-Arts, qui écrivait d'ailleurs aussi des articles, des livres, qui était un grand collectionneur et qui a légué à plusieurs musées de France un certain nombre de tableaux de très grands maîtres. Et à partir de là, on peut constater que Proust a plutôt restreint le personnage de Haas pour faire Swann. Et il l'a privé d'un certain nombre de ses traits dominants, et notamment parce que Swann est un écrivain manqué. Il prépare toujours une biographie qu'il n'achève jamais, qui est une biographie de Vermeer de Delft, peintre qui, bien sûr, était moins célèbre à cette époque-là que maintenant, à l'époque de Proust. Et la question très intéressante, c'est que Proust dresse, en somme, en Swann, la figure même qu'il craignait d'être. Celui qui est l'auteur qui n'arrive pas à écrire. Celui qui n'arrive pas à finir son œuvre. Et de même pour l'amour. Le grand amour de Swann, Swann a été amoureux bien des fois, il a eu bien des conquêtes, mais il a eu un amour principal qui fait l'objet du milieu de Odette Swann. Pour Odette Swann, une femme, comme il dit, qui n'était pas son genre. Or, justement, Proust met en lui également toutes ses propres souffrances. On voit, lorsqu'on lit sa correspondance avec ce compositeur de musique qu'on redécouvre maintenant, Reinhard Lohan, et quand on lit les témoignages de leur amour, que la jalousie de Swann pour Odette, c'est exactement la jalousie de Swann, de Proust à l'égard de Reinhard Lohan. Donc il met beaucoup de lui-même dans son personnage, à la fois comme épouvantail, et en même temps parce qu'il sympathise avec lui. Mais Swann est différent, il aura donc une femme, il aura une fille, ce qui n'est évidemment pas le cas de Proust. Et en même temps, il y a en lui une forme d'esprit qui lui est commune avec Proust. Proust prête à Swann un somme de mots d'esprit, qui avait d'ailleurs aussi un petit peu court dans la haute société du temps, et Swann est capable de mots qu'on peut trouver très drôles, justement. Donc c'est un personnage ironique, amusant, charmeur, qui plaît beaucoup au lecteur, alors qu'en réalité, ce n'est pas un personnage d'une grande profondeur. Si on regarde humainement, c'est plutôt un raté. C'est quelqu'un qui n'a rien fait de son existence que d'aller chez son tailleur et de dîner à son club.
Il se trompe souvent aussi, la preuve avec Odette.
Et puis il se trompe et puis il est trompé aussi.
Il est trompé surtout, bien sûr. Swann, donc, qui est le personnage peut-être le plus populaire de la recherche, finalement, on n'en a pas vraiment de description physique très précise. La première fois qu'il apparaît, il est assez flou. On n'a pas d'image très claire de lui.
Proust réagit contre Balzac. Là. Il pense que... On a d'un être que des instantanés, les moments différents, et que les visages peuvent être différents d'un jour à l'autre. Donc le point de vue sur les êtres change constamment, et le visage aussi change. C'est pourquoi il ne fait jamais de portrait en pied, comme fait au contraire Balzac, qui vous donne tout, la couleur des yeux, la forme du nez, le menton, la démarche. Proust ne veut pas de cela. Donc on sait juste qu'il a les cheveux vaguement bouclés, blond roux, on sait qu'il a un aquilin, mais on ne peut pas en dire grand-chose. Donc on pense qu'il est grand et mince. Mais alors ça permet justement l'identification. Si les traits ne sont pas bloqués, n'importe qui peut se prendre pour Swann ou avoir devant soi quelqu'un qui, si c'est une femme qui lit, par exemple, quelqu'un qu'elle aimerait rencontrer ou aimer.
Cet aspect fragmentaire du personnage est encore plus frappant chez Albertine, on en parlera plus tard. Je le disais en introduction, Swann, c'est un amoureux malheureux. Il y a une page dans la recherche où il se trouve chez la marquise de Sainte-Verte, au milieu d'une foule de mondains. Il écoute la très belle sonate de Vinteuil, musique qu'il connaît puisqu'elle est associée à son amour pour Odette. Mais en l'entendant de nouveau, il prend conscience peut-être de la vacuité de son amour pour elle. André Dusselier nous lit cette très belle page.
Le concert recommença et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens, dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour, incapable, s'il l'avait connu, de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage, ou de le déplorer comme une folie, il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui, dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Il souffrait surtout, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne ou rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée. Et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'il crut revenu, s'était réveillé, et à tire-d'aile était remonté lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Maintenant, hélas, il arrivait encore parfois qu'elle lui écrivît d'un restaurant ou d'un hôtel sur du papier qui emportait le nom imprimé, mais c'était comme des lettres de feu qui le brûlaient. C'est écrit de l'hôtel Vouillemont ? Qui peut-elle être allée faire ? Avec qui ? Que s'y est-il passé ? Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes. Dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui, en effet, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même.
Swann, les yeux pleins de larmes et qui ne se reconnaît pas dans le miroir, c'est vraiment un extrait très triste. Charles Swann, il a un rapport très particulier à la musique. Dès qu'il entend Vinteuil, il se souvient d'Odette. C'est assez fascinant comment il arrive à appréhender cette musique, mais lui seul, on a l'impression que les autres se disent juste que c'est une musique parmi d'autres. Lui, la lit d'une manière très particulière et très personnelle.
Et en même temps, bien sûr, c'est tout à fait juste, et en même temps, ce n'est pas la véritable manière d'aimer la musique, selon Proust. C'est-à-dire que c'est encore une manière sentimentale d'aimer la musique que d'y mettre son amour, par exemple. Et c'est au moment, au contraire, où l'œuvre se détache de tout, qu'elle devient véritablement musicale. Car Proust a écrit dans La Plaisir et les Jours un très joli texte qui s'appelle L'éloge de la mauvaise musique. La mauvaise musique, c'est celle où nous nous vautrons en y mettant nos sentiments, notamment la chanson. Et au contraire, la véritable musique, c'est celle où on ne peut pas entrer.
Alors Charles Swann aurait une mauvaise lecture de la sonate.
Oui, absolument. Oui, c'est une. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait rapprocher de la philosophie de Hegel dans le roman proustien, c'est qu'il y a des étapes dans la conquête du savoir. Et nous sommes à la première étape, celle où c'est très bien de s'intéresser à l'art, mais si c'est pour voir dans Botticelli les traits de la femme qu'on aime et mettre dans la musique de Vinteuil juste des sentiments amoureux, c'est qu'on n'est pas vraiment, on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'art.
Alors Charles Swann, c'est un peu l'ombre du narrateur, je le disais tout à l'heure. Il va vivre avant lui les souffrances de l'amour.
Voilà, ma critique d'ailleurs a dit que c'était comme Saint Jean-Baptiste par rapport au Christ. C'est le Saint Jean-Baptiste du narrateur finalement. Il lui annonce à la fois les souffrances de l'amour, la grandeur de l'art, mais il ne se montre à la hauteur ni de l'un ni de l'autre finalement.
Et le narrateur s'en sort lui, contrairement à Swann. Le narrateur va écrire son livre.
Oui, il n'est pas qu'un simple Swann, justement, qu'un amateur stérile.
Charles Swann, c'est un personnage aussi assez intéressant parce qu'il fait partie de ces cercles mondains, mais il est très lucide par rapport à toute cette société. C'est peut-être le personnage le plus lucide par rapport à cette marquise de Sainte-Euverte, au Vert du Rhin. Il arrive vraiment à prendre des distances et à avoir un regard assez critique envers eux.
Oui, c'est parce qu'il a ce trait essentiel de l'humour qu'avait Proust aussi et qui consiste à ne pas se prendre au sérieux. Et à prendre toujours une distance, non pas seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même. Et d'où les mots d'esprit, d'ailleurs. Par exemple, quand un amateur de tableau demande à Swann à qui il attribue ce tableau, il répond à la malveillance, par exemple. C'est le genre de mots qu'il aime faire.
En deux mots, quel est votre personnage préféré de la recherche ? Est-ce que c'est Swann ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Celui qui a le...
J'aurais du mal. En tant que réussite artistique, c'est Charlu. Je pense, on en reparlera. Et sinon, j'aurais du mal à répondre. Peut-être que c'est Swann tout de même, en effet.
Jean-Yves Tadier, merci beaucoup. Je vous retrouve demain. Ce sera le 4e épisode de notre escapade du côté des personnages. Après Swann, un autre mondain, Charlus. Certainement le personnage le plus émouvant du livre.
So we meet again after several years, several years of separation. Moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Sing oh, 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 oh. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you. Winter and spring, winter and spring.
Summer and fall,
summer and fall.
You're the surf across in the ocean on the boat behind. Skiffling rag,
skiffling rag.
Shuffling wall,
shuffling wall.
You're the up tiptoe ballerina on the chorus line.
Sing oh, 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 oh. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you. Cloud falling down the spring.
Il est 20h23 sur France Inter, nous écoutions Boat Behind, une chanson choisie par Djoubaka et interprétée par le groupe Kings of Convenience. Il me reste quelques secondes pour vous donner rendez-vous sur notre site internet franceinter.fr, rubrique Un été avec Proust, et vous dire que notre cher Marcel aurait eu 142 ans aujourd'hui même.